Bonjour et bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Et notre invité ce midi, c'est Cynthia Jean, le nouveau maire de Dabea. Bonjour.
Bonjour Elisabeth, bonjour à tous les auditeurs d'RRB.
Merci d'avoir accepté votre invitation après votre élection le 22 mars dernier, une élection qui était l'un des événements de ces élections municipales, puisque vous avez battu le maire sortant Johan Lecourieux avec un score incontestable. Votre liste a obtenu près de 40% des voix au premier tour, plus de 45% des voix au second. Comment est-ce que vous expliquez cette victoire avec un peu de recul? C'est une adhésion à votre programme ou c'est un rejet de l'équipe sortante?
Je crois que c'est avant tout le fruit d'un travail acharné que j'ai mené avec mon équipe depuis 6 ans au sein de l'opposition au conseil municipal. Pendant 6 ans, nous avons arpenté les quartiers de Dabea afin de mieux comprendre quelles étaient les attentes des habitants. C'est aussi un travail avec finalement ceux qui, dans l'opposition, ont consenti au bout d'un moment à nous rejoindre. À partir de 2023, on a consolidé cette alliance et puis on a effectivement construit un projet, un programme qui répond au plus près des attentes des Dabéens auxquels on était avec qui on avait beaucoup échangé pendant toutes ces années. Alors ça s'ajoute aussi bien sûr à toutes les ambiguïtés de l'équipe précédente. Je pense notamment aux ambiguïtés sur les questions d'avenir institutionnel, sur les discours pas très clairs sur le dégel du corps électoral. Je pense évidemment aux sénatoriales de 2023 qui ont laissé des traces. Les Dabéens ne l'ont pas oublié. Ou le vote du budget de la Nouvelle-Calédonie, le maire sortant avait voté contre. Et on ne peut pas nier qu'évidemment le score de 18% pour un maire sortant est une véritable sanction qu'ont infligé les Dabéens. Moi, je crois depuis le début que... les citoyens de nos communes ont parfaitement fait le lien entre l'avenir institutionnel, les questions d'avenir institutionnel et leur quotidien. Et nous avons, nous, dans notre projet, rassembler ces deux projets. D'abord notre projet Dabéen, projet pour notre ville, fruit d'un intense travail pendant plusieurs années, fruit d'un travail d'une équipe, et puis la ligne claire sur l'avenir institutionnel.
Oui, on a souvent dit que c'était une élection de proximité, mais on a vu que c'était aussi une élection politique. Alors parlez-nous de vous, je sais que vous n'aimez pas trop ça, et puis que vous avez l'impression d'avoir déjà tout dit, mais les gens ne vous connaissent peut-être pas encore, les Calédoniens ne vous connaissent pas tous encore. Vous êtes d'une famille qui a toujours eu un engagement politique très fort, hein. Vous n'êtes pas tomber comme ça du jour au lendemain en politique?
Non, je suis effectivement née dans une famille où l'engagement politique a un sens très fort. C'est quelque chose que nous vivons comme quelque chose de noble quand il sert l'intérêt collectif. Donc évidemment, depuis mon enfance, je suis allée de meeting politique en réunion de quartier. Et puis, j'ai moi-même commencé à militer dans les années 2000 au sein des jeunes du Rassemblement. Puis, j'ai rejoint Calédonie Ensemble, puisque j'ai été chef de cabinet de Thierry Cornaille. Et puis, au moment de la trahison de 2019, nous avons, avec Nicolas Mesdorf, Nina Julier, fondé Génération NC, dont je suis la secrétaire général. Nous avons beaucoup travaillé là aussi pendant 6 ans. On a porté le combat contre le drapeau du FLNKS sur le permis de conduire, qui est contraire à la loi. Et cet engagement politique, il s'est exercé tout au long de ma vie et il trouve aujourd'hui effectivement une forme de concrétisation à la mairie de Dabea. J'en suis très fière puisque moi j'habite...
Pourquoi Dabea, je sens, puisque votre famille n'est pas originaire de Dabea. On sait que votre mère, votre maman a été maire de Poya. Alors pourquoi vous retrouvez à Dabea?
Eh bien, simplement parce que j'ai choisi de vivre à Dabea il y a de cela 18 ans. J'ai choisi cette commune pour m'installer avec ma famille, mon mari et mes deux enfants. Donc c'est tout naturellement, comme on me l'a appris et finalement comme je le porte en moi, que je me suis tournée vers ma commune, que j'ai cherché comment finalement améliorer le quotidien des Dabéens. Et c'est comme ça que j'ai été tête de liste aux élections municipales en 2020 et que j'ai poursuivi ce travail pendant 6 ans avant d'être élu maire.
Dabea, deuxième commune de Nouvelle-Calédonie aujourd'hui, 35 000 habitants. C'est pas impressionnant d'en être le maire quand, comme vous, on n'a pas une grande expérience de la gestion d'une collectivité pour l'instant?
Écoutez, d'abord, on était depuis 6 ans dans l'opposition, donc on avait une connaissance des attentes et des dossiers sensibles qui nous attendaient. On a également une équipe très bien préparée, une équipe compétente. Et puis, je crois que mon travail dans les institutions m'avait permis d'appréhender l'ensemble de la tâche. Il y a une administration qui est extrêmement organisée. Donc non, il n'y a aucune peur, aucune appréhension quand on arrive à la tête d'un édifice comme ça. Il y a une certaine, par contre, forme de responsabilité, de poids sur les épaules, parce qu'on prend la mesure de l'importance de la fonction. Et ça, c'est important de la garder en tête, d'arriver avec beaucoup de... Eh bien, de volonté d'améliorer les choses, mais aussi d'humilité face à la tâche qui nous attend. Donc voilà, on est déjà au travail. Depuis le premier jour, on a commencé ce travail.
Les équipes sont installées, ça y est, tout est en place, vous avez pris vos marques.
Écoutez, oui, nous avons travaillé dans plusieurs sens. D'abord, d'un point de vue institutionnel, depuis hier soir, les commissions, depuis ce matin d'ailleurs, les commissions municipales sont installées. Elles sont prêtes à travailler. Le conseil municipal hier a terminé cette installation avec notamment les annonces des délégations des 9 adjoints. Et donc la partie institutionnelle est terminée, l'équipe est prête. Sur les premiers pas sur le terrain, j'ai souhaité tout de suite, dès les premiers jours finalement de mon arrivée à la mairie, aller au contact des agents. Donc j'ai rencontré l'ensemble des agences sur leur lieu de travail, dans leur cadre quotidien. C'était important pour moi d'aller les voir, d'aller les rassurer, parce que un changement, ça peut faire peur, d'aller finalement à leur contact, leur donner les premières pas directives, mais voilà la façon dont je percevais ce travail. Donc c'est encore en cours. Il me reste les écoles maintenant à aller voir. Beaucoup de rencontres aussi des acteurs économiques sur le terrain, puisque on a un gros travail à mener pour renforcer l'attractivité de notre commune. Et donc oui, beaucoup de travail sur le terrain.
Un mot sur l'opposition. Vous avez siégé 6 ans dans l'opposition, vous le disiez. Et maintenant, quelle va être votre attitude? Quelle place est-ce que vous allez donner à l'opposition? Est-ce que ça va être conflictuel ou est-ce que vous allez en faire un interlocuteur dans la gestion de la commune?
Écoutez, je sais parfaitement ce que c'est qu'une opposition. Je l'ai vécu pendant 6 ans où, justement, je n'ai pas eu l'impression d'avoir été forcément écoutée ou respectée. Moi, j'entends agir à l'inverse, en écoutant les propositions qui sont celles de mes opposants. Nous avons à entendre, à écouter ce qu'ils proposent. On a d'ailleurs commencé en recevant les jeunes, des jeunes qui ont milité sur d'autres listes et qui, lors d'un débat, m'ont fait des propositions et je les ai reçues pour entendre ces propositions, voir comment on pouvait les accompagner, peut-être les mettre en œuvre. Donc, dans cette opposition, effectivement, a toute sa place à Dimbéa.
Alors maintenant, passons un peu au projet et à vos priorités. D'abord, dans quel état est-ce que vous avez trouvé la commune de Dimbéa? On sait qu'elle a beaucoup souffert des violences insurrectionnelles. Est-ce qu'il reste encore des séquelles aujourd'hui? Est-ce que votre premier travail va être de réparer un peu encore ces séquelles des émeutes?
Oui, alors je n'ai pas eu besoin d'arriver à la tête de la mairie pour découvrir l'état de la commune, puisque j'habite Dimbéa depuis 18 ans et donc j'ai une parfaite compréhension de la situation. La commune est meurtrie, elle a perdu un nombre, 130 entreprises qui ont été détruites, 80% du tissu économique, on a de nombreux bâtiments publics qui ont été détruits, et puis surtout, il y a des séquelles dans les cœurs de chacun, au-delà des destructions matérielles, des destructions économiques, il y a une perte de confiance de la part de la population, et puis un niveau de tolérance qui n'est plus le même qu'avant, c'est-à-dire que la population ne tolère plus d'intrusion dans leur tranquillité. Les Dimbéa aspirent à vivre tranquillement dans leur quartier et c'est cette confiance qu'il faut rétablir. Ce travail de proximité dans les quartiers au quotidien sera aussi important que le renforcement de notre activité économique.
Renforcement de la confiance, mais ça passe aussi par un renforcement de la sécurité, j'imagine. Quels sont vos projets dans ce domaine? Comment rendre plus sûre la ville de Dimbéa?
Écoutez, le travail a commencé tout de suite dans plusieurs directions. J'ai rencontré monsieur le haut-commissaire dès les premiers jours pour lui indiquer que nous allions entamer des démarches pour demander aux plus hautes autorités de l'État le passage de la partie sud de la commune en zone police. Nous voulons que la police nationale puisse exercer exercer sur la partie urbaine de Dimbéa. C'est nécessaire parce que je le vois encore aujourd'hui, j'ai rencontré bien sûr les forces de gendarmerie. Nous avons des gendarmes compétents installés sur la commune, mais en nombre trop peu suffisant. 44 gendarmes sont en ce moment en poste à la caserne de Dimbéa. On me dit qu'il y a également des gendarmes mobiles, mais je crois que ça n'est pas suffisant. Les gendarmes mobiles exercent un métier important dans le cas de maintien de l'ordre, dans le cas d'émeutes, par exemple, etc. Ce sont des forces de gendarmerie très importantes. Mais il y a un travail de proximité qui doit se faire. Il faut renouer absolument entre l'ordre républicain et les citoyens. Et ça passe par des Calédoniens ou des personnes installées depuis longtemps sur le territoire qui portent l'uniforme, qui vont aller au-devant des populations et qui vont reprendre contact, rétablir l'ordre, réimposer l'ordre en étant au plus proche des populations. Et je ne crois pas que des gendarmes mobiles présents pour 3 mois puissent incarner cette proximité. Ce sont des forces de l'ordre qui sont complémentaires, mais qui ne suffisent pas à elles seules. C'est pour ça que l'un de nos projets est de faire intervenir la police nationale sur le territoire de Dimbéa.
À côté de la police municipale que vous voulez renforcer ?
Évidemment, la police municipale que j'ai rencontrée, j'ai évidemment visité les locaux de la police et j'ai pu vérifier, bien sûr, leur excellent travail et surtout cette connaissance du terrain, cette proximité. Notre programme est clair sur le sujet. On va passer cette police en H24. Évidemment, cela va se faire dans le temps. Et il y a aussi un meilleur armement à offrir à notre police puisqu'elle est confrontée de plus en plus à des situations dangereuses. Il y a une loi à l'Assemblée nationale qui sera étendue à la Nouvelle-Calédonie par décret permettant à notre police municipale d'être mieux armée. Je crois que c'est absolument indispensable. Il faut offrir à nos policiers des moyens de terrain à la hauteur des modifications de la délinquance qui s'y exerce.
Délinquance notamment auprès du centre médical de Couthiot qui a été victime de plusieurs exactions ces derniers jours. Est-ce que c'est l'une de vos préoccupations ? Est-ce qu'il y a un moyen de répondre à ça ?
Oui, je me suis rendue 2 fois, malheureusement, à 2 semaines d'intervalle. Dès les premières constatations, le centre médical de Couthiot a été vandalisé 3 fois en 3 semaines. Les deux fois où, quand j'étais élue maire. Et sur place, qu'est-ce qu'on constate ? On constate des personnels de santé qui sont à bout, qui n'en peuvent plus, qui sont de plus en plus menacés par des patients. Et cette situation est absolument intolérable. Donc grâce au travail de la police et de la gendarmerie, notamment de la police municipale, une partie du matériel volé a pu être récupérée. On pense à la trousse de docteur du docteur Hassan Frax qui exerce depuis 20 ans dans notre commune. Ces médecins qui sont à bout et qui pourtant souhaitent rester sur notre commune, ils ont choisi d'exercer dans l'aglo, alors que ça aurait été beaucoup plus confortable pour eux d'aller dans les quartiers sud de Nouméa. Non, ils ont fait le choix de l'agglomération et il faut absolument les protéger de cette délinquance qui maintenant n'hésite plus à s'en prendre à nos médecins. J'ai échangé tout de suite avec monsieur le haut-commissaire qui m'a garanti d'abord la simplification des procédures de dépôt de plainte pour les médecins qui doivent conserver en plus la tête froide pour continuer à exercer leur métier et le déploiement d'un dispositif particulier pour protéger nos centres médicaux parce que évidemment on a besoin par-dessus tout que nos médecins restent dans notre commune et je les remercie pour cela.
On parlait d'une réforme il y a un instant, on parle aussi de l'implantation du RSMA dans l'agglomération de Nouméa. Dimbéa est candidate, quels sont les atouts pour accueillir le service militaire adapté ?
Écoutez, évidemment, quand Dimbéa est candidate pour accueillir le RSMA sur la commune, l'un de nos terrains a été identifié comme étant un terrain qui garantit toutes les caractéristiques techniques nécessaires, un terrain qui se situe dans la ZAC Panda, qui est un terrain plat, entièrement disponible, qui est situé au cœur d'une zone économique. Il y a 160 entreprises dans ce quartier. Elles ont manifesté manifester leur intérêt pour la présence du RSMA, puisqu'elles pourront offrir très facilement un cadre de stage et de formation aux jeunes, sans que la question du transport ne pose le moindre problème, puisque tout ça se ferait dans le même quartier. On a un soutien très fort également des coutumiers de l'endroit, puisque le clan qui est voisin, un voisin direct du terrain de la ZAC Panda, a émis un avis très favorable, souhaite l'installation du RSMA sur la commune. C'est une situation très différente dans les communes voisines, donc nous on a la chance d'avoir des coutumiers qui ont compris tout l'intérêt d'avoir un équipement militaire sur notre commune, et puis Dimbéa est sur un axe stratégique, hein, entre Nouméa, la Brousse et puis l'aéroport de Tontouta. Et enfin, notre commune n'a pas d'équipement militaire structurant, au contraire de Tontouta, qui a la base aérienne du Rima Paploum et de Nouméa, qui abrite de nombreuses infrastructures. Nous avons une caserne de gendarmerie, mais aucun équipement structurant. Donc voilà, on se bat pour que, évidemment, le RSMA soit installé sur notre commune.
La réponse, ça doit être donnée quand? On sait quand
dans les prochaines semaines.
On suivra ça. Alors, parmi les priorités aussi, toujours à cause des séquelles de mai 2024, la reconstruction, vous le disiez, beaucoup de dégâts d'infrastructures privées et publiques. Où est-ce que vous en êtes? Quels sont les projets en cours? Et est-ce que certains rentrent dans le pacte de refondation de l'État?
Écoutez, nous inaugurons dans deux semaines l'école de Gréland, qui a été détruite et reconstruite par l'État. C'est un événement que j'ai souhaité organiser avec de l'ampleur, parce qu'il faut dire aux parents, il faut dire aux enfants, il faut dire aux acteurs du quartier que c'est quelque chose qui ne doit plus jamais arriver à Dimbéa et nulle part ailleurs. Ces écoles sont des sanctuaires et je veux que ce message soit entendu, hein, par les enfants, les élèves, les parents. Et il faut protéger nos enseignants, il faut protéger nos lieux d'éducation, les bâtiments municipaux. La reconstruction se poursuit sur la commune grâce à l'aide de l'État. Et concernant ce plan de relance, j'ai sollicité monsieur le haut-commissaire et je l'ai alerté sur le fait que les critères d'éligibilité du nouveau plan de relance ne correspondent pas, me semble-t-il, à des communes urbaines comme Dimbéa, puisque ce sont beaucoup de critères concernant les services essentiels ou le désenclavement ou le trait de côte. Et effectivement, des communes comme Dimbéa sont plus impactées par des problématiques de sécurité, de logement, de transport. Et donc, il faut pouvoir répondre à ces problématiques-là aussi.
Donc vous allez essayer d'adapter un petit peu pour faire des projets qui pourraient rentrer, qui pourraient être aidés par l'État éventuellement?
Exactement. Nous avons des projets à déposer le 15 mai. C'est la deuxième vague du plan de relance. Donc nous travaillons d'arrache-pied pour présenter des projets à l'État et puis les convaincre d'assouplir ces critères pour que des communes urbaines puissent y répondre.
Alors l'un des problèmes évoqués largement pendant la campagne municipale, c'est celui du logement social. Quand on parle de Dimbéa, on y pense forcément. Quel diagnostic vous faites de ce qui a été réalisé ces dernières années et comment vous voyez, comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème de l'habitat social à Dimbéa?
Alors nous avons dressé pendant la campagne électorale un diagnostic sévère sur le logement social à Dimbéa, puisque il y a une énorme concentration de logements sociaux, 30% sur l'ensemble de la commune, 50 à 60% sur certains quartiers.
C'est bien au-dessus des quotas qui sont demandés.
C'est bien au-dessus de tous les quotas demandés en général. En métropole, le quota qui est demandé, c'est 20%. L'ensemble de la Nouvelle-Calédonie est à 15%, quand Païta est à 8%, par exemple. Donc Dimbéa, dans certains quartiers du sud, c'est 50 à 60% de logements sociaux. On sait que c'est source de conflits. Les bailleurs sociaux doivent davantage suivre les locataires qui ne respectent pas les règles dans ces logements sociaux. Une majorité de gens, bien sûr, aspirent à y vivre tranquillement. Une minorité sème la terreur et doit être sanctionnée et déplacée. Il y a une absence aussi, ou plutôt une insuffisance de de médiation dans ces logements sociaux. Nous avons dans notre programme le projet d'y installer des concierges, des gardiens d'immeubles qui permettent d'assurer tous les petits travaux, qui fassent aussi le lien entre la mairie et les bailleurs. J'ai rencontré hier des responsables du FSH qui sont entrés dans cette réflexion, qui ont commencé à mettre en place ce qu'ils appellent des référents. On voit que dans le quartier de Jacarandas, par exemple, ils ont réinvesti les locaux de l'ancienne maison de quartier abandonnée pour y installer une salle de sport, au service des habitants, des jeunes, des enfants du quartier en proximité. Ça fonctionne. Il y avait 45 enfants lors de la première heure d'ouverture ce lundi. Donc, il faut convaincre l'ensemble des bailleurs de s'engager dans cette voie et d'accompagner davantage les habitants.
Mais est-ce qu'on va pouvoir tout remettre à plat? Non. Tout remettre à zéro? Non. Est-ce qu'on réfléchit à une forme d'habitat social qui pourrait être adaptée à ce que souhaitent les populations concernées, populations qui vivent à Dabéa?
Je ne crois pas que ce soit un problème de forme d'habitat. Quand vous faites le tour, et je vous invite un jour à venir visiter nos quartiers, une grande partie des logements qui ont été construits sont des logements de bonne qualité, des villas en duplex, avec jardin, avec tout le confort. Donc certes, il y a des résidences qui ont été mal conçues, il faut les réhabiliter ou les déconstruire, bien sûr, mais ça reste une minorité. La plupart des logements ont été bien conçus, je vous le dis, avec des jardins, et donc c'est pas tant la forme de l'habitat qu'un problème concernant les personnes qu'on met dans ces logements. Il faut que chacun respecte les règles et permettre aux personnes qui veulent vivre tranquillement de pouvoir vivre dans leur quartier tranquillement et sanctionner ceux qui ne respectent pas les règles.
Pour des chantiers d'une telle ampleur, puisque vous le disiez, reconstruction, beaucoup de choses à faire, vous avez la coopération, vous travaillez avec les institutions calédoniennes, on pense à la province, au gouvernement,
bien
ce sont
sûr,
des sources d'appui pour vous?
Bien sûr, c'est tout l'objectif de la liste d'union que nous avons menée à Dimbéa, puisque nous avons une liste d'union de toute la famille non indépendantiste. J'ai reçu le député Nicolas Mesdorf et nous lui avons dressé la liste des dossiers dans lesquels nous avions besoin de son appui auprès de l'État. Nous recevons la présidente de la province sud le 29 avril prochain, là aussi pour lui faire part de l'ensemble des attentes que nous avons auprès de la province sud. Nous recevrons également monsieur Christopher Gigès, membre du gouvernement, prochainement. Donc l'idée d'être dans cette liste d'union, c'est bien sûr de travailler en très grande proximité avec les responsables des autres collectivités. Madame la présidente de la province sud m'a déjà assuré du soutien pour la climatisation des écoles dès cette année, et donc nous avons un certain nombre de dossiers à faire avancer au plus vite, parce que nous n'avons pas le temps d'attendre.
Reconstruction, tout ça, c'est un peu austère pour l'instant, mais vous avez aussi des projets d'embellissement de Dabéa et d'améliorer l'attractivité de la commune, c'est possible? Sur quoi est-ce que vous travaillez pour ça?
Alors, nous allons commencer, nous avons un rendez-vous le 7 mai pour, avec le deuxième vice-président de la province sud, sur la question de l'aménagement du parc de la rivière de Dimbéa, qui est, vous savez, un joyau de notre commune. Et donc, nous avons besoin du soutien de la province sud et surtout de faire se corréler nos visions. Nous devons partager la vision de la province sud et la nôtre pour offrir un espace protégé, un espace auquel les Dimbéens et les Calédoniens pourront accéder de façon sécurisée pour profiter d'un parc protégé. Voilà, ça c'est pour les côtés plus se tourner vers les loisirs, le tourisme et l'environnement.
Alors, vous parliez politique rapidement avec cette liste d'union que vous avez menée effectivement au municipal. Vous avez été pratiquement la seule à avoir une liste qui rassemblait l'ensemble des partisans de la France en Nouvelle-Calédonie. Quelle est votre vision de l'avenir institutionnel? Et puis, on va y aller franchement, quelle est votre vision des futurs provinciales? Est-ce que ce que vous avez fait à Dabéa avec une liste unique, ça pourrait être reproduit pour les futurs provinciales?
Écoutez, nous, ma vision est très claire. D'abord, je l'ai dit tout au long de la campagne et je le maintiens, tous les acteurs économiques que je rencontre depuis que je suis élue le confirment, seul un accord politique stable conduira nos investisseurs à confirmer leur engagement économique pour la commune, vont leur donner la confiance et la visibilité nécessaires pour investir et ainsi renforcer l'attractivité et surtout offrir des emplois aux Dimbéens et aux Calédoniens. Donc nous défendons l'accord politique, bien sûr. Nous pensons que c'est une indispensable dans l'époque dans laquelle nous sommes, puisqu'on voit que les indépendantistes, eux, n'ont pas renoncé à leur volonté d'accéder à la pleine souveraineté. Nous avons une voix médiane qui s'est installée, dont on ne sait pas très bien ce qu'ils veulent ou ce qu'ils pensent du dégel du corps électoral, par exemple. On a vraiment des craintes à avoir de ce côté-là. Donc nous, on est partisans d'une union totale de la famille non indépendantiste au provincial. On voit bien à Dimbéa que nous avons réussi à faire cette union. J'espère que Dimbéa va inspirer les élections provinciales. Ce n'est pas un problème de personne. C'est un problème là de mettre ses égos de côté, de regarder la situation globale, de prendre de la hauteur et de conduire la province sud vers le chemin qui doit être le sien. Une province prospère économiquement, stable politiquement, avec un maintien fort dans la France.
Qu'est-ce que vous pensez de la proposition du Rassemblement, que ce soit Génération NC, votre parti qui conduit la liste en province sud? C'est trop tôt, c'est pas une question de personne?
Écoutez, c'est pas un problème de personne. Nous avons, nous, notre conseil politique qui se tiendra demain. Je crois qu'au-delà des problèmes de personnes, c'est vraiment... il faut trouver comment, et nous l'avons fait à Dimbéa, je le répète, trouver la voie qui conduit à une union totale de la famille non indépendantiste, portée par la personne qui sera désignée comme la plus à même de faire aboutir cette liste d'union, d'avoir le plus grand nombre de voix possibles pour que nous assurions l'avenir de la province sud au sein de la République, et puis avec de la prospérité et puis du bien-être pour les habitants, parce que c'est ce à quoi nous aspirons tous.
Justement, une note un peu plus festive pour conclure ce magazine. Il y a bientôt deux rendez-vous à Dimbéa. C'est les premiers que vous présiderez en tant que maire d'Abéa. Il y a d'abord la fête de l'Olma Géante, ça c'est un classique, vous allez bien sûr le faire perdurer, j'imagine.
Alors évidemment, la fête de l'Omelette Géante est un grand classique de Dimbéa, créé il y a très longtemps par Bernard Marant, donc ça aura lieu le 25 et le 26 avril, un moment festif, populaire, tourné vers ce moment de dégustation de l'omelette, donc je n'en dis pas plus, mais il faut évidemment que l'ensemble de la Calédonie, tous les Calédoniens se déplace vers Dimbéa le 25 et 26 avril au Parc Fayard.
D'habitude, il y a une très grande affluence tous les ans.
Oui, oui. On ne doute pas que ce sera la même chose.
Et il y aura du soleil comme aujourd'hui, ce sera parfait.
Et ce sera encore mieux que les années précédentes. Et puis, on a un tournoi international aussi qui se tient sur la commune du 29 avril au 2 mai, l'Open de golf, l'Open Evian de golf, un tournoi vraiment international avec des stars du golf international qui viennent sur notre commune mettre en avant le magnifique golf de Dimbéa. Donc voilà, deux événements dans les jours qui viennent, dont je suis très fière.
Ça aussi, ça participe à l'attractivité de la commune, des événements comme cela.
Évidemment, notre commune a longtemps été une commune dortoir, considérée comme une commune dortoir. Nous avons l'ambition d'en faire une grande commune de loisirs, d'activités, de bien-être et de tranquillité pour tous les Dimbéens.
Cynthia Jean, maire de Dimbéa, merci d'accepter notre invitation dans ce magazine Transparence.
Merci beaucoup, Elisabeth.